On va parler du dossier du confinement, du déconfinement, évidemment. On sait que si on n'est pas une radio, on fait pas des podcasts d'actualité, mais on fait des podcasts sportifs. Sauf qu'il y a, il y a un groupe qui a pas de nouvelles de quand est-ce qu'ils vont être capables de recommencer leur activité. Je parle évidemment avec, je parle évidemment de l'industrie des courses de chevaux. C'est une industrie quand même assez importante au Québec. Ils n'ont pas de nouvelles, on ne sait pas ce que ça va. On va parler avec un gars qui est très bien connu dans la région, qui connaît bien également la situation, c'est Max Brolet. Salut Max!
Bonjour Dani, ça va bien?
Ça va bien Max. Écoute, moi je l'ai dit, j'aime autant la politique que le sport, mais je fais des podcasts sportifs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais donc, il n'y a pas que l'industrie des bars, il n'y a pas juste l'industrie des gyms. Il n'y a pas juste l'industrie, il y a également l'industrie des courses à chevaux. Vous n'avez aucune nouvelle de ce qui se passe.
Ben, je suis obligé de te dire qu'on a eu des nouvelles et que le tout a débuté. On a eu l'OK de la santé publique pour pouvoir réouvrir les installations.
Ouais.
Et déjà là, vendredi et samedi, il va y avoir des entraînements supervisés de prévu le matin pour les gens qui veulent aller pratiquer leurs chevaux à l'hippodrome derrière la barrière, surtout des jeunes chevaux. Et on espère, comme je t'ai dit, on espère que le retour des courses va être pour le 21 juin prochain. Le premier signal de départ devrait être donné le 21 juin prochain, mais à huis clos, sans spectateurs et avec des mesures très, très strictes. Je te
Puis ça.
dirais que les mesures qui ont été prises sont à peu près les plus contraignantes dans le milieu des courses Soirnais, également des courses sur le plat en Amérique du Nord. Mais le
Ah ouais.
21 juin, si tout va bien, ça devrait débuter à l'hippodrome de Trois-Rivières sans spectateurs, c'est-à-dire que les gens devront se contenter de regarder via les plateformes du net, c'est-à-dire Horse Player Interaction, ce qu'on appelle
Ouais.
HPI. Les gens vont pouvoir les regarder à partir de ce moment-là. Et on espère que il va y avoir de l'engouement à l'extérieur aussi pour prendre du pari de l'extérieur, c'est-à-dire dans des différents sites de pari, qu'ils soient au Canada, qu'ils soient aux États-Unis, dans différentes plateformes. On espère que ça va avoir un engouement.
OK.
Chose qui est sûre, c'est que la direction du Jockey Club a pris cette décision parce qu'on sait qu'on est la seule industrie, dans le domaine des courses, on est le seul hippodrome qui vit qu'avec ses revenus, avec les revenus du pari mutuel. Toutes les autres juridictions à travers l'Amérique du Nord ont des subventions ou ont des machines
Ouais.
vidéo-loterie ou des casinos qui sont rattachés à leur hippodrome et qui leur versent des dividendes. Seul au Québec, puis je vais te dire une chose, seul au Québec vit avec le pourcentage du pari mutuel. Et
OK.
déjà là, d'avoir reparti une industrie de vivre avec seulement le pourcentage du pari mutuel, c'est déjà quelque chose. Faut pas oublier une chose. Depuis la réouverture des courses par le Club Jockey du Québec, ce qui va faire bientôt 8 ans, ben, il s'est distribué au-delà de 30 millions de dollars en bourse. Il
OK.
s'est également distribué et on a également versé 30 millions en taxes au
OK.
gouvernement. Et dans toutes les autres juridictions d'Annie, toutes
Ouais.
les autres, que ce soit aux États-Unis, au reste du Canada, la taxe sur le pari mutuel est redistribuée à l'industrie. Ça veut dire que si simplement le gouvernement consentirait à nous donner ce qui est donné partout ailleurs, là, on ne parle pas là, d'être un BS corporatif,
Ouais.
si on nous donnerait tout ce qui se fait à l'extérieur, c'est-à-dire seulement que le retour de la taxe sur le pari mutuel, les bourses pourraient doubler, ce qui ferait connaître un essor au monde des courses de chevaux, parce qu'il ne faut pas oublier, Danny, tu nous vois. Tu parles souvent, tu parles de sport, on parle de vedettes québécoises, mais la pépinière des vedettes québécoises est au niveau des courses de chevaux. Les courses de chevaux ont plus de champions que n'importe que tous les autres sports
Okay.
confondus, tes additions, que ce soit le hockey, le baseball, le football. Les courses de chevaux ont présentement les meilleurs entraîneurs en Amérique du Nord sont québécois. Les meilleurs conducteurs, le meilleur conducteur en Amérique du Nord est Yannick Gingras, qui a établi toutes sortes de records, à plus de 100 millions de dollars en bourse de gagner depuis le début de sa carrière. On parle d'un petit gars de 40 ans, un petit gars de Sorel, que sa
Okay.
famille a fait carrière au Québec. Ben, tous ces gens-là, ce sont des vedettes québécoises, souvent méconnues parce qu'on a pris une place. Notre
Ouais.
principal compétiteur à travers les années, on ne se le cachera pas, Danny, c'était le gouvernement du Québec, par l'entremise de l'Auto-Québec, par l'entremise des casinos, qui voyaient d'un mauvais œil l'industrie du cheval de course, les voyaient plus comme un compétiteur qu'un ennemi, qu'un allié. Dans les autres juridictions, on s'en est servi comme étant des alliés. Ici, on a décidé tout simplement de faire disparaître l'industrie. On a réussi. En 2009, lorsqu'il y a eu la faillite d'Attraction Épique, ça, on pourrait revenir longtemps sur le sujet, mais après la faillite d'Attraction Épique, là, il y a un groupe qui a pris ça en main, qui s'appelle le Club Jockey du Québec, qui a parti tranquillement, qui a fait l'acquisition de l'hippodrome de Trois-Rivières, parce qu'en premier lieu, ce que ça prenait, c'était une maison. On n'en avait pas une. On sait qu'il y avait l'hippodrome de Québec qui avait signé un contrat. On présentait 10 programmes, 20 programmes par année à l'hippodrome de Québec. Et quand est arrivé le Taj Mahal à M. Lebaume, le gros éléphant blanc avec sans promesse d'avoir une équipe de hockey, on a décidé de démolir un monument historique. Parce qu'oublie pas une chose, nonobstant le fait des courses, l'hippodrome de Québec était un monument historique. Elle avait été bâtie en 1896. Elle avait été bâtie sur le même modèle que Churchill Downs où se déroule le Derby du Kentucky. C'était une des rares hippodromes où ce que tu pouvais voir les deux grandes colonnes quand tu arrivais à Québec. Ouais. Et c'était beau. On a décidé de démolir ça. Pour ça, souvent, quand les gens disent le Colisée, il a coûté 400 millions, pas une scène de plus, je m'excuse. Mais quand tu démolis, ça valait tout de même une centaine de millions de dollars, l'hippodrome. Là. Quand tu as démoli, ben, tu perds 100 millions. Ça a coûté 500 millions. Ouais. Mais malgré tout ça, là, les gens se sont virés de bord, ont décidé d'acheter l'hippodrome de Trois-Rivières. L'hippodrome de Trois-Rivières, en disant « plus jamais personne va nous mettre dehors, on va être chez nous », ce qui fait la force présentement du club jockey, c'est qu'ils ont une demeure, qui est l'hippodrome de Trois-Rivières. On est chez nous, et là, il n'y a pas personne qui peut nous en sortir. L'hippodrome, pour les ceux qui se posent des questions, est totalement clair. Il n'y a aucune hypothèque, il n'y a rien sur l'hippodrome. Elle était payée un montant X. Je peux te dire qu'elle a doublé de valeur. Il y a des ententes de prix également avec la ville pour quand il y a le Grand Prix de Trois-Rivières. Il y a même des installations qui nous appartiennent, qui servent au Grand Prix de Trois-Rivières, qui servent à la municipalité, qui servent également au baseball, parce que, je sais pas si tu le sais, mais une partie du parking du stade de baseball à Trois-Rivières appartient à l'hippodrome. C'est à vraiment dire, c'est une organisation qui, avant la COVID, était très saine, mais comme toute autre chose, il va y avoir des séquelles qui vont être laissées par cette absence de spectateurs, c'est un tort au niveau de l'économie.
C'est ça que je voulais dire, Max. Là tu as parlé, mais je voulais te poser des questions. Les mesures contraignantes, là, c'est quoi tes mesures contraignantes?
Ben, quand je parle des mesures contraignantes, c'est que les participants devront se soumettre à des règles, c'est-à-dire la fameuse règle de 2 mètres. Ouais. Également, quand ils vont arriver, ils n'auront pas de contact.
C'est-tu applicable, ça, en course de chevaux?
Comment tu dis ça?
C'est-tu bien applicable? C'est-tu faisable?
Oui. Ouais. Je te dirais que c'est une des choses les plus applicables. Parce qu'il y a quand même une discipline. C'est quand tu as des chevaux, généralement, tu es dans une écurie, la personne qui s'en occupe, une personne, généralement, va s'occuper de 5 chevaux, elle va avoir en charge 5 chevaux avec un entraîneur. Ouais. Et je te dirais que c'est des mesures qui sont applicables parce qu'il y a une discipline. Tu as des heures à rencontrer, tu as des délais à respecter, et ça donne que déjà, tu avais une bonne discipline. T'sais, tu peux pas arriver n'importe quelle heure. Ton cheval, il court à quelle heure? À telle heure, il faut que c'est 2 heures. Avant dans le paddock, mais là, bon, ça va être encore 2 heures, sauf que 20 minutes après ta course, il va falloir que tu sois sorti. Si toi, tu cours 4 chevaux dans l'après-midi, tes 4 chevaux vont être un aux côtés de l'autre, il va y avoir une personne qui va s'occuper de chaque cheval, l'entraîneur va les avoir à sa charge, il y a des comme tout le monde, tu vas avoir des endroits pour rentrer, des endroits pour sortir, pour pas que les gens se croisent, c'est que ce sont des mesures qui sont très, très restreignant. Il n'y aura pas de vestiaire pour les conducteurs, c'est-à-dire que les conducteurs devront s'habiller soit dans leur auto. Il n'y aura pas non plus de restaurant. Il n'y aura pas les toilettes, ça va être une personne qui va pouvoir rentrer. Il va y avoir des personnes en place pour aller désinfecter après. Et quand tu vas sortir avec ton cheval, l'endroit va être désinfecté. Là, déjà là, dans les périodes d'entraînement, il va en avoir une de 8h30 à 10h, c'est vendredi, je crois. Et là, ceux de 8h30 à 10h devront être sortis au plus tard à 11h moins quart, 10h40, 10h30, 10h45. Là, on va désinfecter. Là, il y en a une autre gang qui va arriver de midi à la 2h et ça va faire la même chose pour que les gens devront quitter les lieux pour que les autres arrivent. Et quand il va y avoir des courses, ça va être sur le même principe. C'est-à-dire qu'on va qu'on va avoir cette discipline-là pour faire des courses, que ça soit respecté, que les gens se croisent le moins possible. Mais on ne s'en cachera pas. Un endroit comme Trois-Rivières, pas de spectateurs, c'est un petit peu comme la ligne nord-américaine
ben d'hockey. Oui, c'est ça que je voulais dire.
T'enlèves les spectateurs dans les estrades.
Ça va-tu être... Vous vivez combien, vous? C'est sûr que vous vivez avec les paris, mais à quelque part... Sans spectateurs, ça peut durer longtemps?
Ben écoute, comme je t'ai dit, la santé financière du club de hockey est remarquable parce que pour pouvoir se permettre une place comme Trois-Rivières, dire écoute, on va faire des courses sans spectateurs. Le principal des revenus nous vient des salons de Paris.
Okay.
Où ce qui est le X, les salons de Paris, il y a 10 salons de Paris à travers la province. Les 10 salons de Paris, je te dirais, génèrent environ 80 92 et 95% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire les paris qui viennent de l'extérieur, on a un pourcentage. Mais là, les salons de Paris sont fermés depuis le 13 mars dernier. Depuis le 13 mars, il n'y a aucun sou qui a rentré, à part ceux d'HPI. Je te dirais que, globalement, il y a un manque à gagner d'environ, au moment où on se parle, de mars aller à fin juin, il va y avoir un manque à gagner en revenus d'environ 12 millions de dollars. 12 millions de dollars, tu comprends, avec le pourcentage, c'est pas 12 millions clairs, parce que il y a un pourcentage qui revient au Jockey Club, puis là, ben il y a un pourcentage qui revient au parieur qui parie, ça, c'est des calculs qui se font depuis des lustres avec l'histoire du pari mutuel, mais c'est sûr qu'il y a un manque à gagner. Ce qu'on fie beaucoup, ce qu'ils font, c'est parce que pour garder l'industrie en vie, elle a besoin d'oxygène. Et ce qui était frappant, c'est que ça fait plus le mois de mai qui demandait de réouvrir, pendant que tous les autres sports, toutes les autres, que ce soit au niveau de la restauration, que ce soit au niveau des bars, que ce soit au niveau de Bombardier, du Cirque du Soleil, qu'on demande des subventions au gouvernement, eux, les gens de l'industrie, voulaient donner de l'argent, c'est-à-dire voulaient donner de l'argent à eux. On était prêt à distribuer 40 000 $ par semaine aux hommes à chevaux pour qu'ils puissent, parce que faut pas oublier une chose, c'est que ces gens-là, ils ont été pénalisés également. Là.
Ouais.
T'as pas de revenus, mais c'est des bêtes qui continuent à manger. Puis, tu sais, tu peux pas avoir 35 chevaux dans une écurie, puis avoir une personne qui s'en occupe, ça va faire comme d'un CHSLD, là. C'est parce que c'est un petit peu pareil comme l'histoire d'un CHSLD. Tu sais, si tu t'en occupes pas, ben ça va être un hécatombe, ça va être un cataclysme. Ben, c'est exactement la même chose qui se produit. C'est que les gens. Il fallait qu'ils travaillent pareil, il fallait qu'ils gardent grand soin de leur bête, il fallait qu'ils s'en occupent, il fallait qu'ils entraînent, parce que avec la réouverture, tu sais, tu peux pas arrêter un cheval de compétition, mais c'est des athlètes, là, après tout, ce sont des athlètes formidables, et ces athlètes-là, il faut qu'ils soient entraînés, et si tu veux démarrer rapidement, ben, il faut que les chevaux aient été entraînés, il faut que les athlètes soient prêts, puis là, ça fait une couple de séances d'entraînement, je te dirais plus intensif, avec une couple de jours de qualification, où ce que les gens vont se qualifier pour pouvoir être éligibles à courser, parce que quand tu n'as pas couru depuis un mois, tu te dois de te qualifier. Et même encore là, tu vois, le gouvernement n'a pas voulu changer ses règles. Partout ailleurs en Amérique du Nord, on a assoupli les règles, c'est-à-dire que les chevaux pouvaient être 90 jours sans avoir couru et il n'y avait pas besoin de se qualifier. Une course qualification qu'on appelle, c'est quand même une course. Il faut que tu te présentes, il faut que tu rencontres les critères. Faut que tu te qualifies, c'est une course pour protéger le parieur, pour que les gens aient une performance. Ben déjà là, on n'a pas permis cette règle-là, ce qui fait que faut qu'on rentre dans les règles, mais grosso modo, c'est grand temps que ça part. Et pour te dire en vérité, comment que ça va aller, c'est comme dans tous les sports, c'est bien beau, on extrapole, mais on peut pas savoir, même lorsque ça va réouvrir, la présence du public, l'accueil du public, puis nous, ce qui est bien important, c'est les salons de Paris. Lorsque les salons de Paris vont réouvrir, c'était quand même une clientèle, je te dirais, qui se comparait au baseball. Une clientèle qui était assez âgée, plus âgée. On tentait, à Trois-Rivières, on avait la chance. Il y a beaucoup de jeunes familles qui venaient aux courses, qui venaient s'asseoir dans les estrades, sans pour autant parier des sommes énormes, même sans parier. si tu t'en viens, tu t'assises un beau dimanche après-midi ou un vendredi soir, tu regardes les courses avec ta famille, c'est un spectacle qui coûte pas cher. Tu vas te chercher une liqueur puis une poutine qui est à peu près la meilleure, je te dirais une des meilleures dans la province à l'hippodrome de Trois-Rivières. Ça fait des années qu'elle est réputée, puis tu manges ça, puis tu regardes les courses. Tout cet happening-là, tu ne le retrouveras pas. Et ça, comment est-ce quand on va véritablement réouvrir, comment est-ce que ça va être accueilli, comment est-ce que les gens vont venir?
Ça,
ben, ça c'est un point d'interrogation pour les courses, mais pour tous les sports également.
Dis-moi, est-ce que les gens dans les restaurants, il va falloir qu'ils fassent comme les autres et qu'ils portent des masques, les serveurs?
Ben, il n'a pas. Présentement, toute la restauration est fermée.
Oui, mais que ça recolle l'école, ça va-tu? La restauration, ça
va-tu? Écoute, fort probablement qu'ils vont avoir des mesures très strictes à prendre. Moi, personnellement, si tu me demandes mon avis, je trouve qu'on tombe dans l'exagération.
Ben oui.
Tu comprends ce que je veux dire? Je trouve qu'on tombe totalement dans l'exagération. Te faire une parenthèse, j'aime pas la société dans laquelle on vit présentement. Je trouve que c'est une société qui, en plus d'être, elle n'est pas rien que maternante. Elle est épeurante parce qu'elle sème la terreur, ou ce qu'il n'y en a pas véritablement, ou ce qu'il n'y en a véritablement pas, on n'en a pas besoin. Quand tu regardes les statistiques, en vérité, ce qu'on a assisté, c'est un hécatombe qui était prévisible avec les mesures qui avaient été prises dans les maisons pour personnes âgées et compagnie. Et ça, on veut un petit peu rhabiller tout ça. Je trouve que ce qu'on a vécu présentement, c'est un génocide d'une génération, de la vieille génération, qui a été cautionnée, qui a été mis en branle par l'ancien gouvernement qui était là. C'était bien drôle, Danny, là, un an et demi, deux ans, lorsque M. Barrette se promenait avec les patates en poudre et qui nous disait que les vieux avaient peur de l'eau, avaient peur de prendre un bain, et que les vieux se lavaient à de barbouillette, ça faisait. Puis là, les patates en poudre. Mais quand t'écoutes, moi, j'étais bien près de des gens qui travaillaient à ces endroits-là. Et les histoires d'horreur qu'ils nous racontaient, pas trop mettre d'eau dans les patates qui étaient déjà pas bonnes en poudre, pas trop mettre d'eau pour pas que les gens pissent dans les couches. Tu sais, on peut pas croire qu'on est au Québec, d'une société, puis au Canada, d'une société qui se dit civilisée, puis que tu vis des atrocités de genre. Je pense qu'on a eu un miroir. Le miroir nous est revenu à plein visage.
Oui, mais on le refuse. Si on aime mieux un mensonge. On refuse de le reconnaître. On compte ça différemment. C'est ça que la belle excuse. C'est ridicule. Là.
Ben, on aime mieux un mensonge qui nous rassure qu'une vérité qui nous dérange. Et d'ailleurs, tu regardes dans les médias, que ce soit à n'importe quel niveau, que ce soit dans les médias politiques, que ce soit dans les médias sportifs, on aime bien mieux un mensonge qui nous rassure qu'une vérité qui nous dérange. On veut tout être proche de la soi-disant vedette. On veut tout licher les pieds à Marc Bergevin, un exemple. Mais en vérité, quand tu regardes le bulletin, si c'est toi qui payes, tu dis, écoute, bon, c'est un exemple. Tu dis, Marc Bergevin, il est pas bon. Ce qu'il a fait, il a rien livré. C'est pas bon, c'est un désastre. Mais quand ça arrive, t'as des gens pour qui on protège, c'est mon chum pour le protège. T'as de moins en moins de gens ils vont dire la vérité, ça donne les résultats qu'on donne. Alors, moi, je trouve que c'est totalement stupide. Qu'on ait attendu un exemple pour ouvrir le golf au Chita, ben c'est bien l'endroit où tu peux avoir une tension sociale. C'est bien le golf d'année.
Oui, effectivement. Les jeunes sont prouvés que le soccer pour les jeunes, la balle molle pour les jeunes, il y a bien des affaires. Puis c'est prouvé que de 0 à 20 ans, il n'y en a pas de problème. T'as plus de chances de mourir de la grippe ordinaire de 0 à 20 ans que du COVID. Il faut arrêter là.
Je dirais de 0 à 50 ans.
Ouais.
Ah ouais. C'est toi, tu dis 0 à 50 ans quand tu regardes les statistiques. Ouais. Mais là, on dirait qu'on a mis le monde à genoux. Puis ce qui me fait peur, c'est qu'on dirait que les gens qui sont en place, que ce soit la santé publique, que ce soit les politiciens, ils font un trip de pouvoir. Là, ils ont la main mise sur les gens, ils les contrôlent. Et puis là, écoute, parce que oublie pas une chose, pour que tu sois, à partir du moment où ce que tu mets un habit sur le dos à quelqu'un, que tu lui donnes un peu de pouvoir, c'est officiel, mon ami, c'est sûr et certain qu'ils vont en abuser. Hein? Je m'ai donné un exemple en ouvrant et en fermant une parenthèse. L'autre jour, tu sais, chez IGA, des fois, j'aime bien ça, tu vois, je vais me chercher un petit poulet chaud, là. comme plusieurs personnes font, là. Que ce soit chez IGA, chez Métro. Fait que là, j'arrive, je rentre, je dis au monsieur. Là, il dit, prenez-vous un panier. J'ai dit, monsieur, je m'en vais juste. Puis, tu sais, j'y monte parce que dans la vitre, on voit le poulet. Tu sais, on voit ce qui sont les poulets, là. J'ai dit, je vais juste me chercher un poulet. Et puis, je ressors tout de suite. J'ai dit, c'est tout ce que je vais chercher. Monsieur, prenez-vous un panier. Monsieur, je vais juste chercher un poulet. J'ai dit de prendre un panier, sinon, je vais vous expulser. OK, je vais te prendre ton panier. Fait que là, j'ai pris le panier, j'ai mis le poulet dans le panier, j'ai passé au cou, puis il a donné son panier, puis j'ai pris mon poulet. Tu sais, à ce moment-là, quand t'es rendu, que tu donnes le pouvoir, que t'es obligé de donner le pouvoir, ou un habit, ou ce que tu voudras à n'importe qui, ben, il va arriver ce qui doit arriver, c'est-à-dire des abus, il va arriver, puis c'est en plein ça, c'est une manière de contrôler les gens, les infantiliser. On dit qu'une société... qui a peur.
7 ans.
À un cerveau d'un enfant de 7 ans.
Oui, effectivement. Puis ça, c'est une manière de contrôler. Puis le pire, c'est que, écoute, on est loin du sport, là, mais on va finir là-dessus, Max. Le pire là-dedans, c'est que les 15 premiers jours, j'étais d'accord avec ça. Mais là, par la suite, à force de se renseigner, de suivre, on se rend bien compte que la COVID, c'est pas un virus comme. C'est un virus qui frappe les personnes âgées. Qui sont pas en bonne santé ou les gens qui ont des mauvaises santé, qui ont de mauvaise santé, qui ont des problèmes pulmonaires. That's it. Mais là, ça continue, puis Arruda nous fait peur, continue de nous faire peur, puis il y a du monde qui ajoute. Heureusement, le monde semble de plus en plus allumé. C'est ça qui me fait de plus en plus, en tout cas, qui me rend plus heureux. Max, ça commence le 21 juin à Trois-Rivières, c'est ça, la veille de la Saint-Jean-Baptiste?
Ça commence le 21 juin à Trois-Rivières, mais il y a également, les gens peuvent suivre, parce que pendant cette période-là, les courses sur le plat, les courses au galop, qui sont extrêmement populaires, qui ont toutes renversé pendant la pandémie, il y a eu 4 pistes de course qui ont continué à opérer, qui ont battu des records de Paris, qui ont battu des records d'audience via Fox Racing, via NBC, qui présentait des spéciaux à partir du jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Fox Racing a une émission qui s'appelle The Day at the Race, qui présente différentes grosses pistes de galop en Amérique. Puis on prépare présentement le Belmont Stakes, qui va être présenté exceptionnellement samedi, le Belmont Stakes. Par la suite, pour nous emmener jusqu'au premier samedi de septembre, contrairement à d'habitude, où c'est le premier rendez-vous, c'est le Derby du Kentucky, le premier samedi de juin. Ben, le premier samedi de septembre va être présenté le fameux Derby du Kentucky avec plusieurs aspirants à la triple couronne qui vont être sur place. Mais le gros spectacle, ben déjà là, cet après-midi, il y a une bonne course à Gulfstream en après-midi, la 9e épreuve, alors que 3 prétendants au Derby du Kentucky s'apprendent. Mais par la suite, il va y avoir le Belmont Stakes samedi prochain, le 20. Il va y avoir par la suite le Kentucky Derby au mois de septembre, le Preakness au mois d'octobre. Et c'est la première fois que le Derby du Kentucky est déplacé. Il avait été déplacé lors de la Première Guerre mondiale. Il avait été couru en septembre au lieu du premier samedi de mai. Et ça va être seulement que la deuxième fois en 151 ans d'histoire que le Derby du Kentucky va avoir été déplacé. Mais on prépare un gros show. Les gens espèrent que les spectateurs seront de retour aussi. Puis comme tout autre sport, Danny, oublie pas une chose, je pense souvent à la Ligue nord-américaine parce que les gens, des fois, l'aperçoivent de mauvaise façon. Mais ce sont des entrepreneurs qui aiment le hockey. Ça donne une chance à des gens que leur carrière s'est finie abruptement de pouvoir continuer tout en étudiant, tout en ayant une transition entre la carrière de hockeyeur et le monde extérieur. Et cette ligue-là doit survivre, malgré tout ce qu'on peut dire. Écoute, j'ai été affilié avec les Prédateurs de Laval. Je vais faire des tours au pétrolier. J'ai eu des bonnes prises de bec pour le fun avec Danny, avec les Marquis Jonquière. Mais il faut que cette ligne-là vive, parce que ça va être encore un pan de notre histoire qui va disparaître si la ligne nord-américaine part, parce qu'on a de moins en moins de Québécois qui peuvent s'affirmer. Pour cette raison, Danny, que je te dis franchement, quand tu t'intéresses aux courses sur Ornais, ça fait partie de l'histoire du Québec. Et les courses sur Ornais ont été la plus grande pépinière, la plus grande pépinière de champions qu'on a eu au Québec.
Ouais. Max, on va s'en reparler un autre tantôt.
Pas de problème, fait qu'on te souhaite bonne chance, puis prends garde à toi, Danny.
Max Bradette, un grand mordu de course de champions.